par le catéchisme de l'Église catholique. Il n'y a rien avec Dieu. Rien vivant. C'est une qualité lumineuse, un espèce de pli, un ruisseau. Un ruisseau de diamant qui défie comme ça, qui coule au fond de moi, qui s'élève. Et ça s'appelle la vertu de religion. Une bougie, une flamme. Elle bouge continuellement, elle fait resplendir les espaces intérieurs de l'univers. Et l'homme a cette vertu de religion. Il ne la voit pas, elle est là pour éclairer l'univers. Il est l'image ressemblance de Dieu au milieu de la création. Alors, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit, vous savez, vous avez la vertu de religion. Ça ressemble à du diamant, mais c'est liquide, c'est lumineux, c'est jaillissant. Et ça fait le fond, ça fait qu'on a une qualité spirituelle, mais aussi lumineuse et surtout vivante et coulante. Un jardin qui n'est pas arrosé, c'est un désert, la steppe, avec des serpents, tandis que dès lors que l'homme est quelque part, s'il y a un homme dans l'univers, il peut être irrigué. C'est la vertu de religion. On est lié avec Dieu. C'est un lien vivant. C'est les fleuves de quatre fleuves de l'Euphrate, oui, qui roulent, qui sont dans le paradis. Et qui font qu'on a les deux pieds vraiment au sol. Les deux pieds, on est debout. Vertu de religion. Fait que notre univers n'est pas orphelin parce qu'il y a l'homme au milieu. Et l'acte premier de la vertu de religion, c'est l'adoration. Alors on a une qualité, mais cette qualité, elle peut grandir. C'est un petit ruisseau de diamant lumineux, merveilleux, immaculé. Mais comme toutes les vertus, comme toutes les qualités, elle va nous faire prendre au prix à chaque toucher, l'index, le manchard, à chaque partie de notre regard. Il vient irriguer un petit peu comme le sang vient irriguer un petit peu tout. Petit à petit, il vient irriguer, au fur et à mesure, toute la vie humaine, la vertu de religion. Si elle veut se répandre, il faut que. Dieu lui donne, l'invite à faire que ce ruissellement, cette qualité-là, qui fait qu'il est le roi fraternel de l'univers, par sa conscience d'amour, c'est une loi éternelle en nous, enfin, C'est seulement ça. Il faut que ça grandisse, que ça se répande. Et pour ça, il faut faire des actes. On est invité à faire des actes. C'est-à-dire à bondir sur toutes les montagnes, sur tous les sommets spirituels, angéliques, etc. C'est à bondir, à traverser tout, et puis à se remettre en Dieu, et à tout remettre en Dieu, à emporter avec nous la création tout entière, pour la remettre à l'intérieur de Dieu avec nous, nous établir en Dieu et l'aimer. Faire un acte d'adoration. Ressemble beaucoup à la visitation. Et Marie, elle adore. Ses yeux comme ça, adore. Son visage adore. En elle. Elle avait accès, moi je crois qu'elle avait accès à tout en elle. Elle avait accès, elle s'y arrêtait jamais à rien du tout en elle. Mais elle y avait accès. Mais elle ne s'y arrêtait jamais, parce que tout, par exemple le moindre goutte de sang, la moindre particule de sa chair, était dirigée, s'envolait continuellement en Dieu, en emportant la création tout entière. Et ça, c'était depuis sa conception. Donc le catéchisme de l'Église catholique, elle nous dit, il y a la vertu de religion et l'adoration en est l'acte premier, la première chose. Si on va être humain, s'élance, bandit au-dessus de tout ce qu'il y a de plus grand, de plus profond, de plus élevé, courir par-dessus et rentrer à l'intérieur de la demeure du Bereshit de Dieu, d'Atanaï Elohim. Voilà ça. Donc on fait un acte d'adoration, vous voyez, on fait des actes. Et puis à force de faire des actes, ça devient une respiration, un écoulement normal. Et du coup, nous avons la vertu, cette qualité. Et on peut dire, je suis un être humain. C'est la nature qui veut ça, c'est pas la grâce. On dirait aujourd'hui, pour faire bien, c'est philosophique. Si vous êtes professeur de philosophie, la première chose à apprendre, celui à qui vous parlez, c'est l'adoration. Sinon, ça n'intéressera pas. Enfin, il faut qu'il ait en face de lui un adorateur. Il faut qu'il ait en face de lui un être humain. Adore Dieu. Adorer Dieu, c'est le reconnaître. C'est de naître. D'être conçu continuellement. Et de naître continuellement. Avec lui, en Dieu, à l'intérieur de lui. De manière que sa création son acte créateur en réponse à mon acte d'adoration devienne un acte de rédemption. Et le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe s'unit à la création entière dans l'acte d'adoration parfaite. C'est beau le catéchisme. L'amour infini et miséricordieux je m'engloutis et je suis conçu à nouveau et la création de Dieu se prolonge en réponse à ma venue en lui en amour infini et miséricordieux. Et bien ça, le catéchisme nous indique que c'est ça fait partie de la respiration, j'allais dire, de la lumière vivante qui fait l'être humain. C'est l'acte premier, c'est le premier commandement, c'est la première invitation. Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat. Reconnaître que nous sommes le néant, comme créature, et qu'il n'y a que Dieu qui lui donne d'exister et de vivre. Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat le louer, s'en émerveiller, s'en exalter, s'humilier soi-même. Et rayonner partout l'évidence d'une gratitude qui fait tout, qui crée tout, avec une magnifique splendeur, qui fait de grandes choses et que sa présence est vivante et qu'elle est sainte. Et ça veut dire qu'elle est. Sainte, ça veut dire qu'elle est à part de tout ce que tu peux imaginer. Elle est sacrée, quoi, elle est sainte. Et bien l'acte d'adoration, c'est d'être comme Marie dans le Magnificat. C'est la qualité de l'homme normal. Elle libère l'homme du repliement sur soi-même. L'esclavage du péché et de la dépendance vis-à-vis des choses que nous appelons l'idolâtrie. Alors, c'est la méditation que pose le Magnificat pour la fête de l'Annonciation, de la Visitation. Alors on va dire, c'est peut-être un privilège de Marie, hein, de vivre ces grands mystères du rosaire du monde nouveau, du rosaire, ces grands mystères, c'est... Bon, pour nous, oui, bien sûr, quelque part, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas... En même temps, le mystère de la visitation montre, enfin, nous indique, nous révèle. Elle vient jusqu'à nous, quand même. immédiatement partagé. Marie ne garde, ne retient rien. Elle donne tout. Tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle fait. Et toute cette plénitude de s'évanouir tellement il est merveilleux, son humilité, elle le communique, elle le porte, elle exhale son parfum à l'intérieur de nous. Elle s'unit à nous. Et donc tout ce qu'elle vit intérieurement, c'est notre vie chrétienne, finalement. L'adoration, cette fois-ci en elle, devient une adoration avec le Saint-Esprit, une supervenue du Saint-Esprit en nous, et une supervenue de l'esprit, de l'épouser dans le pot. Les deux ensemble s'unissent et font les deux ailes de notre adoration humaine. Ça devient une adoration mariale, pour ça j'aime bien ce titre du catéchisme. Adorer Dieu comme Marie. C'est ce que le Père veut. Il dit ça à la Samaritaine, Jésus. C'est des adorateurs. En esprit et en vérité. Quand Saint Joseph apprend la conception et la présence au milieu de nous, dans l'incarnation d'Adonai Elohim. Oh, dans le nid caché et entièrement donné à la liberté. Dans l'anticipation de toutes les anastases du Christ, il dit, voilà, ah, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Hein, le Benedictus qu'on dit chaque matin, au fils de l'Aude, tous les matins. Il tient en main l'épée à deux tranchants. Il tient dans ses deux mains l'épée à deux tranchants. Il tire vengeance de Satan. Il charge le chêne des rois. Il jette les princes dans les fers. Il leur applique la sentence écrite. Toutes les citoyens, tous les satans, tous les démons, tous les princes, tous les arrogants. Mais il tient dans main, ses deux mains, l'épée à deux tranchants. Et il voit que quand il y a la visitation, quand Dieu vient nous visiter, quand on dépasse le voile de la virginité féconde de Marie, apportant la visitation à l'intérieur de Dieu, c'est-à-dire à l'intérieur de notre vertu de religion en même temps, eh bien, nous pouvons prendre l'épée. Nous avons la capacité comme elle, au même titre qu'elle est avec elle, avec la Sainte Famille, avec ce mariage spirituel, cette transformation de notre adoration. Transformation intérieure. À un moment donné, l'adoration n'est plus humaine, l'adoration est divine. Elle est divine surnaturellement, elle est divine et joyeusement, mais d'une joie qui s'écoule de l'intérieur de la Très Sainte Trinité pour jaillir dans l'incarnation d'une visitation parfaite. Parce que l'adoration consiste à visiter Dieu. Et apporter avec nous dans cette visitation l'univers entièrement glorifié, magnifié, élargi, transformé, métamorphosé dans la lumière de l'amour, dans l'incarnation de chaque forme lumineuse qui fait son existence, sa nature, sa finalité, son acte pur. faudrait faire des poèmes comme ça sur la relation. Faire des poèmes. Ben, c'est ce qu'elle a fait, Marie, aussitôt. Il y a eu le poème du Magnificat, il y a eu ce chant, et c'était... Et donc l'homme, la femme, l'enfant, ben, ils ont deux mains. Demain sont là toujours pour nous rappeler qu'on doit prier, qu'on doit pas seulement adorer, mais qu'on doit transformer, qu'on doit apporter au Dieu vivant, incarné et présent, une transformation. Jésus va grandir, Dieu va s'incarner. Sa conception va respirer. Elle va prendre la forme de notre adoration en esprit en vérité. Elle va prendre les qualités de la nature humaine, extasiée dans la magnificité d'une spensualité de Marie et Joseph immaculée, féconde d'une fécondité surnaturelle, parfaite et accomplie. S'écoulant par avance dans la confiance de l'anastase, qui, c'est-à-dire de la résurrection, qui est la finalité à partir de laquelle Dieu a créé toutes choses, puisqu'il a tout créé à partir de la finalité de toutes choses, de l'acte pur de leur accomplissement, dans son accomplissement intime et éternel. Et donc Marie et Joseph apportent à Jésus de quoi grandir. Il y a une croissance, l'embryon de Jésus, la mémoire de Dieu dans la vie embryonnaire, dans la nature humaine de Jésus, assumée, fait que la Très Sainte Trinité palpite à l'intérieur de la chair. Sale de la nature humaine et donne une lumière toute nouvelle à notre univers. C'est une vie divine qui est Jésus en s'incarnant comme ça et en venant grandir à chaque acte intérieur d'amour de Marie et Joseph, prend la forme intérieure. La nature humaine de Jésus se transforme petit à petit, grandit. Et cette transformation vient de l'amour, pas seulement immaculé, hein, de l'amour toujours ressuscité de Marie et Joseph. Qui font grandir, et alors ils grandissaient en sagesse, ils grandissaient, et les qualités de la vie humaine de Jésus, enfin, son visage, c'est pas, ses vertus, ses qualités, cette transformation du petit embryon, puis la naissance, puis le Jésus enfant, puis la nature humaine de Jésus. De cesser chaque jour de se transformer. Et cette transformation venait de Marie et Joseph. Jésus ressemble intérieurement à Marie dans ses qualités divines, surnaturelles, chrétiennes, du Christ. Il ressemble à Joseph dans ses qualités intérieures d'humilité, de royauté. Vivifiante, lumineuse, tranquille, rassemblant à l'intérieur de lui une simplicité invisible. Jésus prenait ce qui émanait de l'unité des deux. De la responsabilité de l'Esprit Saint et de la pousser, quoi. Mais incarné, quoi, et vivant dans une nature humaine. Au milieu de laquelle il avait voulu grandir. Et puis, réciproquement, l'âme humaine, quand elle adore en esprit, en vérité, eh ben, elle se laisse prendre dans ce mouvement, dans cette croissance-là, dans cette transformation que Jésus reçoit en premier de Marie et Joseph. Et notre âme, à travers ça, en s'y engloutissant dedans, en s'y plaçant éperdument, en s'y recueillant, enfin je sais pas comment dire, aussi, en venant y habiter, quoi, s'y placer, et comme une plante, prendre cet enracinement, une nouvelle éclosion. Notre âme, notre vie sur la terre est transformée et on rentre du coup dans l'union transformante. Mais c'est réciproque. Dans le mystère de la visitation, on voit que Marie nous apporte cela, que Jésus s'est laissé transformer par elle. Par l'amour spontané, par la présence immaculée, divine, surnaturelle, ouverte de tous les côtés, dans tous les espaces intérieurs, la nature divine, parce que tous les dieux adoraient un esprit en vérité, et que la conjonction des dieux dans la présence transformait la nature humaine de Jésus, et pouvait grandir avec ses qualités qui étaient celles de Marie et Joseph unis à l'intérieur d'une adoration où l'Esprit Saint se rendait présent de manière dans une mission visible. La responsabilité de Marie et Joseph, c'est la colombe. L'Esprit Saint est invisible. Mais dans la responsabilité de Marie et Joseph, la procession du Saint-Esprit s'est prolongée dans le temps, dans le sein, dans le cœur, dans le sang, dans les vertus, dans l'adoration de Marie et Joseph. Et c'était le Saint-Esprit en personne qui était dans la responsabilité. Toute la vie chrétienne, nous le savons, dans l'union transformante, c'est faire en sorte que c'est dans l'invitation du baptême, c'est faire en sorte que Dieu prolonge sa présence substantielle, personnelle, totale, exclusive dans le temps et s'y établisse dans le temps de la vie. Alors ça a donné l'incarnation. Jésus, c'est vraiment la vie intime et personnelle de Dieu éternel et incréé dans le monde créé, engendré, non pas créé. Jésus, l'Église, le corps mystique vivant de Jésus vivant, c'est l'incarnation, c'est le Verbe de Dieu, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu vivant, c'est la lumière vivante de Dieu, c'est l'intimité vivante d'amour et de lumière de Dieu. C'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Eh bien, qui procède du Père, cette émanation du Père, qui est Dieu vivant, émane jusqu'à Marie et jusqu'à nous dans l'Église, et fait que c'est ce Dieu vivant qui est incarné, c'est lui, l'hostie, c'est lui. Nous, c'est lui, le corps mystique vivant, Jésus vivant, sont une prolongation réelle, sans aucune rupture, sans l'ombre d'une entrave, du Dieu vivant qui s'incarne. C'est la présence de la première procession de la très sainte Trinité qui se prolonge dans la lumière d'amour, à travers la virginité agréée de Dieu en nous. Et on est les porteurs. Quand on fait oraison, vous voyez, la mission invisible des personnes divines dans notre âme et dans notre corps spirituel venu d'en haut. La mission invisible des personnes divines, c'est-à-dire la procession par laquelle Dieu vivant émane de l'époux du Père à l'intérieur de Dieu éternellement, cette émanation se prolonge, c'est une mission. Dieu est envoyé en personne à l'intérieur de notre âme. Il y a une mission invisible de cette personne divine en nous, dans notre âme. Il veut toucher, pénétrer la substance de la chair et la matière vivante de notre corps vivant pour trouver ce ruisseau merveilleux des diamants parfumés et liquéfiés de l'adoration en lui. Et dans l'oraison, la mission invisible de cette première personne, de la deuxième personne de la très sainte Trinité en nous, fait que notre grâce mariale augmente. Notre grâce sponsale de la Sainte Famille augmente. Mais il y a une autre mission invisible, c'est la mission invisible du Saint-Esprit. Saint-Esprit émane. N'est pas conçu, Saint-Esprit, par le Père et le Fils. Il émane. Le Saint-Esprit émane de l'aspiration, la sponsalité éternelle avant toute création. Il y a une émanation intime, profonde, intérieure. L'intérieur de Dieu qui émane. Un mouvement. Il émane de l'union du Père et du Fils. De l'épouse et de l'épouse agréée. Ce mouvement peut se prolonger à l'intérieur de Marie. Le Saint-Esprit, cette mission invisible qui fait que le Saint-Esprit émane de l'unité du Père et du Fils, peut émaner à l'intérieur de Marie. Ce mouvement, cette mission, ce mouvement, cette exaltation. C'est pour ça que la visitation Marie vole avec empressement au-dessus des montagnes de Judée pour aller dans la demeure de la communication. Il y a la mission invisible du Saint-Esprit se prolonge en Marie, se prolonge dans l'église de Jésus, dans la Jérusalem, dans ceux qui font raison, dans la transformation surnaturelle du corps vivant qui est en nous. Cette prolongation, cette procession du Saint-Esprit, c'est une mise en mouvement fulgurante, une délicatesse, délicieuse. Elle se prolonge dans notre âme en prière et nous transforme de petite créature humaine sans qualité à colombe. Et quand on voit la colombe, par exemple, au baptême de Jésus, Saint-Esprit se manifeste sous forme de colombe. Et c'était simplement la manifestation visible de la mission invisible du Saint-Esprit dans Jésus. C'est un prolongement de la manifestation, de la procession du Saint-Esprit à l'intérieur de l'unité sponsale de Marie-Joseph. Cette qualité intérieure de la transformation, la prolongation de la mission invisible du Saint-Esprit, s'est manifestée visiblement. Et cette colombe, la mission invisible du Saint-Esprit, avec la présence du Saint-Esprit dans ce qu'il est éternellement, se prolonge en nous, au milieu de nous. La manifestation, Jésus, la manifestation visible de la procession de l'épousé, du Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Bref, les deux processions demandent à venir se répandre dans l'univers de Dieu, à partir de nous, dans l'oraison, L'oraison, c'est le moment où la transformation de la visitation de Dieu se fait de manière telle que la grâce de Marie soit en affinité de plus en plus. Et notre sainteté augmente, la sainteté de l'univers augmente, la sainteté de l'univers angélique augmente. La sainteté de l'univers angélique dépend de ceux qui font raison. À la manière de Marie, en recevant, en étant la coupe de l'émanation, des missions invisibles des personnes divines, dans notre âme, jusqu'à atteindre le corps spirituel venu d'en haut, qui nous vient de l'anastase. La fécondité de Marie et Joseph dans l'Eucharistie, hein, dans les fruits des sacrements, notre vie sur la terre. C'est les missions invisibles, hein, des personnes divines dans notre âme, jusqu'à ce qu'elles atteignent la matière vivante de notre corps pour ça. Voilà pourquoi nous avons été créés par Dieu. Est-ce que je suis là sur la terre? On entend ça quelquefois. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là sur la terre? Pour ça. Pour la visitation. Cette visitation, cette mission invisible des personnes divines, qui fait que la transformation de la sainteté virginale, ancrée et prolongée en nous, c'est ça qui se passe en ce moment. La virginité de Dieu s'est incarnée dans Marie. Dans sa spensalité avec Joseph, elle a surabondé dans une émanation du Saint-Esprit pour pouvoir transformer toute chose dans une sainteté anastasique. On a une vie résurrectionnelle. Cette vie résurrectionnelle est impensable si elle n'est pas à l'intérieur du Saint sponsal incarné de Marie et Joseph. Et cette vie résurrectionnelle, ben Nosiri, elle rayonne, elle nous emporte partout dans les sommets et les plus grandes profondeurs de Dieu, mais aussi du monde angélique et de l'innocence assoiffée. De ceux qui sont dans l'autel de l'Arche d'Alliance, de la sponsalité et du nouvel engendrement du monde nouveau. Hein? C'est beau, Benedictus de Saint-Joseph, qu'on dit tous les matins, il tient en main, dans ses deux mains, l'épée à deux tranchants. Ses deux mains, c'est l'émission invisible des personnes divines. Chacune des deux mains représente dans la Bible, les missions invisibles des personnes divines dans l'âme de l'humanité tout entière à travers nous, à travers le prophète, à travers le Messie, à travers l'Immaculé, à travers la Jérusalem dernière. Et bien dans ces deux mains d'une eau transformante de l'oraison, je saisis le glaive à deux tranchants. Cette transverbération, cette transglorification. La croix glorieuse qui fait pénétrer par sa puissance le monde de la gloire de Dieu, de la nature humaine de Jésus ressuscité jusque dans l'au-delà de l'anastase de l'ascension de son trône intérieur. On a créé de Dieu pour tout ce qui est humain. De cette manière, la race divine de Marie dans la visitation devient totalement et substantiellement divin. L'homme devient Dieu et nous emporte et nous revient en visitation. Le glaive à deux tranchants. C'est quand même Trimène et notre mon humanité. Moi, je fais partie des hommes, des femmes, des enfants. Moi, j'aime les enfants. Et donc, voilà, à la visitation, le clavier de Tranchant s'approche d'une maison qu'elle n'a jamais quittée, en fait, puisque c'est le mariage de Zacharie et d'Elisabeth. C'est établi dans les hauteurs des montagnes de Judée, ce qui est le plus splendide, tout ce qui dépasse toutes les saintetés d'Israël. La responsabilité s'était établie là. Ça, c'est le texte de Saint-Luc pour la visitation. Elisabeth et Zacharie. Et ils étaient passés sous la porte du temple, le plus proche possible du Saint des Saints. Ils étaient mariés là. Et quand Joseph et Marie se sont mariés dans le temple de Jérusalem, ils sont mariés, c'était la fête des Lumières. Ils étaient mariés tous les deux. Le lys à trois splendeurs. Les trois lys ont resplendi sur le bâton de la croix de leur unité profonde. La mission invisible de l'épouse est la mission invisible du Saint-Esprit. Et l'épanouissement de la croix glorieuse visitante et émanante, les trois à l'intérieur de ce qui défaisait leur unité sponsale dépassante, émanante. Ils sont mariés là, sous, le plus proche possible. Et quand ils sont mariés dans la semaine, c'est dans la semaine où ils sont mariés, dans les fêtes de la lumière, Dieu se narrava que l'ange Gabriel est apparu dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem. L'ange Gabriel est apparu à Zacharie. La fécondité sponsale, l'univers, toutes les plus grandes splendeurs de la sainteté émanant dans la création de tous les temps, pouvaient couvrir dans le Saint des Saints de la Créature de Dieu l'apparition de l'ange Gabriel, le prophète de Zacharie. C'est la première fécondité de Marie et Joseph, la première visitation. Du glaive à deux tranchants, où il y avait en même temps la mission invisible du Saint-Esprit et la mission invisible de l'épouse agréée de Dieu dans une seule émanation. Et elle est venue sur Zacharie, elle a déposé en lui le germe qui avait été retiré à Adam. Et 9 mois après, Jean-Baptiste est né. Jean-Baptiste, c'est le premier homme qui est né corporellement de la fécondité sponsale de Marie et Joseph par la médiation d'une visitation. Cent jours plus tard, Jésus s'est incarné. Entre les deux, il y a le mystère de l'église. Tout a été vu. Une fois que Marie et Joseph ont visité, ils ne se sont pas arrêtés. Et dans l'union transformée, le Saint-Esprit et l'épouse les ont emportés tous les deux dans leur émanation sponsale, à visiter toute l'église de tous les temps, de tous les lieux, chacun d'entre nous. À travers le fruit des sacrements qui devait venir un jour. Une fois qu'ils ont parcouru comme ça, réellement, toute la visitation de l'Église, passé, présent et futur, et en pleine étude, Saint-Esprit les a ramenés, et l'ange Gabriel est apparu. est supervenu du Saint-Esprit en même temps que la conception de l'épousée. Et l'épousée qui est l'Immaculée, qui est la virginité de Dieu créée, incarnée, a été emportée, assumée. Et le Verbe est devenu chair. Et aussitôt, les deux apparitions d'Ange Gabriel, les deux conceptions, ont voulu se conjoindre. Hein? Et donc il y a eu la visitation entre les deux et tout. Entre les deux, Jean-Baptiste. Ouais. C'était le sixième mois, donc 153 jours après. Donc, Marie et Joseph, hein, bien sûr. Parce que Marie, Jésus ne peut pas vivre sans l'une des responsables de son père et de sa mère. C'est impossible, il ne peut pas. Marie-Joseph. Et ils vont conjoindre, si je puis dire, la double fécondité de leur responsabilité à la terre de l'adoration d'esprit en vérité. Dans les missions invisibles du Saint-Esprit et de l'épousaire. Et le clavier de tranchant pénètre. Et il se crée à ce moment-là une Pentecôte. Et une Pentecôte. La mission invisible du Saint-Esprit s'est prolongée là. Et il s'est rendu personnellement présent. Dans l'unité des six, rétablissant le sixième jour de la création et chacun des jours précédents, et en concevant comme ça, dans le cœur de l'embryon qui battait, dans l'âme, dans l'intériorité de l'être humain, dans la nature humaine, en concevant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été conçu dans le cœur de Jean-Baptiste, parce que Jésus, lui, à ce moment-là, c'était un jeune homme. Il n'y avait pas de cellule cardiaque. Donc il fallait qu'il aille battre immédiatement pour concevoir le royaume, le règne du sacré. Conception du Sacré-Cœur de Jésus se fait dans un autre cœur que le sien. Celui de Jean le baptiseur. Cet événement-là est aussi important que l'événement qui a eu lieu 153 jours avant. Le Verbe est devenu chair. Les deux. D'ailleurs, c'est la même annonciation à Marie. Hein? Les deux conceptions sont de même importance, sont en affinité l'un avec l'autre, à égalité. La conception du règne, du royaume de Dieu, du règne du Sacré-Cœur de Jésus, la conception du Verbe de Dieu dans le Christ. Sont une seule visitation de la terre au ciel. C'est la réponse de la nature humaine au don qui est fait et qui fait que la nature humaine peut précipiter à l'intérieur de Dieu lui-même dans sa propre substance. Et dans son intérêt, ce que Dieu a opéré dans tous les temps et dans tous les lieux de l'univers, c'est le royaume de Dieu. Au fond, c'est l'ascension qui se déploie à l'intérieur de la substance de Dieu. Et qui devient la maison, le trône, Jérusalem dernière, la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem glorieuse, la Jérusalem spirituelle, la Jérusalem de la joie. Et c'est beau, donc, quand on voit l'année 2019 pour la première fois, dans cette grâce-là, que nous pouvons recevoir pour la première fois, grâce à l'hostie, à cause du Saint-Père, qu'il en a décidé ainsi, pour recevoir cela pour la première fois corporellement, dans le corps mystique de Jésus. Nous en sommes les récepteurs, comme la fleur de la passion, tout s'éclot et se referme en nous pour s'établir et se réouvrir à l'intérieur de l'agneau qui est Dieu vivant sur le trône de l'Apocalypse. À Jérusalem nouvelle. Là, il n'y a plus l'ombre d'un péché. Tout est immaculé. L'Église est admirable. Parce que c'est l'Église de la Visitation. Sublime. Rien. C'est pas ce que dit la télé, d'accord. Mais ce que nous dit la Visitation, c'est ça. Il y a quelque chose. On fait partie de l'Église. Il n'y a pas l'ombre, pas la moindre. Sans toute splendeur. Ça veut dire même la lumière de gloire de la vision béatifique vient s'engloutir dans l'Église pour y trouver un autre épanouissement tout en restant dans la lumière de gloire, tout en demeurant ce qu'elle est face à face. Hein? Et la transformation surnaturelle mariale chrétienne de la Jérusalem nouvelle qui s'ouvre ses portes ces jours-ci. On s'y prépare, on s'y habitue à vivre dans ce parfum, cette odeur, cette atmosphère. C'est notre monde à nous, ça. Quand les portes vont s'ouvrir dans quelques jours, là, on y est tellement déjà habitué que... On y rentre dedans. Attention, le TGV, il reste pas longtemps sur le quai. Faites gaffe. Il y a une conférencière à Rome, c'est le dernier jour dernier, il y a 3 jours ou 4 jours. C'est, il y a 2 rails. Ils vont dans le sens contraire. C'est la proclamation de l'égalité toute pure pour l'homosexualité. C'est le premier rail. Et le deuxième rail, c'est l'autorisation qu'on se fait de rentrer dans la création de l'homme. Ces 2 rails sont pour un seul train et ils vont dans le sens inverse. L'Église ne peut pas renier ce qu'elle est. Donc le reniement de Pierre, elle n'en veut plus. dois proclamer, vivre de la visitation et du monde nouveau. Voilà. Le clavier de tranchant, pour faire dérailler le TGV de Lucifer. Mais qui sommes-nous, non? Hein? Nous sommes des catholiques pratiquants. Nous votons au contraire pour que le TGV arrive sur ces deux rails-là. En masse. Mais non, non, non. Faire dérailler. Faire dérailler sera. C'est pour faire dérailler ce TGV. Pour qu'il déraille. Pour qu'il n'arrive pas au quai, quoi, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on a pris un autre, non? Donc voilà, donc Sarkozy, M. Boer, M. Attali, enfin tous les démons de notre siècle, Castaner, Macron, on peut dire leur nom, hein, c'est officiel. Philippe, Hollande, Hidalgo, enfin tous ceux qui incendient les problèmes de Paris, quoi, tous les complices. Regardez, mon frère m'a envoyé une petite vidéo où on voit de la fenêtre de Jack Lang, qui est officiellement un pédocriminel officiel. Et puis c'est lui qu'on a invité pour parler de Notre-Dame de Paris qui brûlait. C'est lui qui t'a invité, pédocriminel officiel. Bon, ben voilà, tous ces gens-là, merveilleux, et de sa fenêtre, on voyait, quoi. Il y a un deuxième foyer d'incendie qui a démarré. Et c'était une explosion. Ça devait être une espèce de bombe qui faisait 2 mètres. On voit un truc exploser. On voit une explosion qui va jaillir un truc de 40 mètres de hauteur. Notre-Dame de Paris. Alors, on voit plein de photos, plein de films, plein de trucs. Mais cette vidéo-là, personne ne l'a jamais vu passer. Personne. Mais forcément, puisque on doit devant les yeux que le mégot de cigarette il était aussi gros quoi, que cette pièce. Il était rempli de titane, de machin, tout. Donc, c'est pas un ouvrier qui l'a amené, hein. Alors, hein, cette litanie-là, chargée de chaînes des rois, jeter les princes dans les fers, leur appliquer la sentence écrite, la fierté de tes fidèles. Voilà ce que dit Joseph dès qu'il y a la visitation. De ces gars-là, ils doivent être décomposés, en raison du pouvoir qui est le nôtre, qui est un pouvoir d'humilité, qui est un pouvoir d'adoration. C'est un pouvoir de transformation, c'est un pouvoir de royauté, c'est un pouvoir d'amour, c'est un pouvoir quasi incréé, dans l'incréé, les transformant l'incréé à l'intérieur du quasi incréé, en anastase, en coupe, et en royaume de paix sur paix. La visitation, c'est la conception du royaume. C'est le jour où le royaume du Sacré-Cœur de Jésus a été conçu. Il était content, Saint Jean-Baptiste, quand ça lui est arrivé. C'était 9 mois, 3 mois avant sa naissance. Il était content. Il ne se posait pas la question, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce qui était content? Je me rappelle, on avait prié. Je racontais ça pendant le carême. On avait prié comme ça pour Béatrice. Elle portait Cécile. C'était 3 mois avant la naissance. Elle portait Cécile. On priait pour elle parce que bon, Elle voulait donner sa vie à Béatrice. Donner sa vie à son mari, sa femme. De s'engloutir, être prise, être possédée par Dieu. Jésus, le royaume, le Sacré-Cœur, tout ça. Alors, on était, voilà, avec. On était quelques-uns. C'était pendant une agapé pneumato surnaturelle. Bon. Elle était là et la petite Cécile qui était là, bah, elle commençait à danser à l'intérieur. Nous avons même dansé. Elle dansait. Elle disait, mais là, elle était dans une paix. Et il y avait son enfant qui dansait tranquillement. C'est comme si elle voyait à quel point c'était harmonieux. Elle danse une sorte de joie. Elle dansait. Et 3 mois après, quand elle est née, pourquoi? Parce que on avait prolongé les missions divines des personnes divines dans un agapé, c'est-à-dire un amour divin. Pneumato, surnaturel, spirituel et surnaturel. Et c'était pas du tout kakuna, uniquement le pardon humain, quoi. La guérison humaine, on n'a pas pardonné, c'est très bien. L'agapé pneumato, surnaturel, spirituel, pas psychologique, des blessures affectives. Non, pneumato, surnaturel. Alors du coup, l'enfant, ben, ça y est, elle était tout à fait elle-même. Elle dansait. Faisait danser la création. Et quand elle est née, ben elle est, sa mère nous a dit, sa mère m'a dit, je l'ai vue 19 ans après, 19 années plus tard, elle m'a dit, ben quand elle, je lui dis que, alors, et la petite, l'enfant que vous aviez là, oh, elle a dit, ben quand elle est née, ben elle est née. Et tout le monde s'est écarté. Les médecins, les trucs, etc. Et elle chantait. Mais un chant. Vous voyez, un petit bébé qui est en train de naître. Un chant. Sublime. Ça durait 10 minutes. La petite à 18 ans, quoi. Elle portait toute la croix glorieuse de Jésus, cette petite. Impressionnant. Voilà. Il faut apprendre aux femmes de la terre concevoir, à vivre l'union transformante et à donner des enfants, mon Dieu, qui soient consacrés pour le monde nouveau, hein, qui soient des danses et des chants, une harmonie parfaite. Mais grandissante, hein. Intéressante cette histoire de Béatrice et de Cécile. Cécile, elle s'appelle la petite. Bon, maintenant elle est plus petite, elle doit avoir. On est encore 19 ans plus tard, elle doit avoir 30 et quelques. La visitation, vous voyez, la visitation, c'est pas. Là, je veux dire par là, la visitation dans notre vie chrétienne, c'est normal. C'est curieux, hein, l'Église catholique. Non, on vote pour le chicoutsi, mais jamais misé homosexuel, pédocriminel. En masse. Alors que normalement, l'Église catholique, elle connaît la visitation. Elle devrait, tous les mamans, toutes les femmes de l'Église catholique, devraient donner naissance à Cécile. Chante. et Jean-Baptiste du monde nouveau. Et bien dans la Jérusalem nouvelle qui est en train d'arriver, dans quelques jours. Voilà ce que devient l'Église catholique. L'Église catholique est splendide. Et ce qu'elle fait, splendide. Suavité. Il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Visiter le monde angélique qui est dans la vision béatifique pour qu'il grandisse avec nous dans cette visitation qu'on fait dans l'arche d'alliance de l'Immaculée Conception sponsale et maintenant les nouvelles conceptions et celles qui existent déjà, les conceptions, les concevant d'une manière nouvelle et les visitant, les glorifiant de manière nouvelle dans la magnification et du règne du Sacré-Cœur pour qu'ils en soient des émanations du règne du Sacré-Cœur, chacune d'entre elles, dans le baptême des engendrés nouveaux, et de nouvel engendrement, et de nouvel enfantement des enfants du monde nouveau, que sont les enfants, parce que là on dispose quand même de pas mal d'enfants. Le Jean-Baptiste aujourd'hui, ce sont ces centaines de milliards d'enfants qui attendent, qui est un acte d'un catholique, pour venir leur apporter la visitation. Ça, voilà, ça c'est... Si notre adoration, ce n'est pas l'adoration de Marie, notre adoration n'est rien. Ce qu'a dit le catéchisme de l'Église catholique. En gros, quoi. Moi, je parle en gros, hein, vous savez. Mais voyez, posez-vous la question. C'est la première fois aujourd'hui, dans toute l'histoire de la création, dans toute l'histoire humaine, c'est la première fois qu'on peut recevoir une grâce infaillible, invincible, immaculée et incarnée. C'est quoi cette grâce? C'est quoi? Posez-vous la question intérieurement. C'est quoi cette grâce d'aujourd'hui? Tu as permis pour la première fois qu'elles viennent se concevoir à l'intérieur de l'union transformante, adorante, résurrectionnelle des enfants et des membres vivants de l'Église de Jésus vivant dans le règne du Sacré-Cœur qui doit se répandre partout dans le monde à partir de la France. Quoi cette grâce nouvelle? chercher, faut vouloir découvrir, être éclairé, et que s'ouvre en nous. Mais bien sûr, cette grâce-là, je dis oui. Laissons Dieu faire en nous ce que nous ne savons pas faire sans lui. Dans le silence de ta présence, le Saint-Esprit nous envahit. Dans le creux, sa puissance est un verbe d'amour, resplendit et écrit Abba, Abba, Abba. Ah. Ah. Ah.